Chapitre 46. Tout ce qu'on peut souffrir d'une porte. À 9 heures, Lucien était sorti, comme tous les soirs, dans son coupé, pour aller à l'hôtel de Grandlieu. Réservant son cheval de selle et son cheval de cabriolet pour ses matinées, comme font tous les jeunes gens, il avait pris un coupé pour ses soirées d'hiver, et avait choisi, chez le premier loueur de carrosse, un des plus magnifiques avec de magnifiques chevaux. Tout lui souriait depuis un mois. Il avait dîné 3 fois à l'hôtel de Grandlieu. Le duc était charmant pour lui. Ses actions dans l'entreprise des omnibus, vendues 300 000 francs, lui avaient permis de payer encore un tiers du prix de sa terre. Clotilde de Grandlieu, qui faisait de délicieuses toilettes, avait 10 pots de fard sur la figure quand il entrait dans le salon, et avouait hautement d'ailleurs sa passion pour lui. Quelques personnes assez haut placées parlaient du mariage de Lucien et de Mademoiselle de Grandlieu comme d'une chose probable. Le duc de Chaulieu, l'ancien ambassadeur en Espagne et ministre des Affaires étrangères pendant un moment, avait promis à la duchesse de Grandlieu de demander au roi le titre de marquis pour Lucien. Après avoir dîné chez Madame de Sérisy, Lucien était donc allé, ce soir-là, de la rue de la Chaussée-d'Antin au faubourg Saint-Germain, y faire sa visite de tous les jours. Il arrive, son cocher demande la porte, elle s'ouvre, il arrête au perron. Lucien, en descendant de voiture, voit dans la cour 4 équipages. En apercevant M. de Rubempré, l'un des valets de pied, qui ouvrait et fermait la porte du péristyle, s'avance, sort sur le perron et se met devant la porte comme un soldat qui reprend sa faction. « Sa seigneurie n'y est pas, » dit-il. « Madame la duchesse reçoit, » fit observer Lucien au valet. « Madame la duchesse est sortie, » répond gravement le valet. « Mademoiselle Clotilde, je ne pense pas que Mademoiselle Clotilde reçoive monsieur en l'absence de Madame la Duchesse. » « Mais il y a du monde !» repartit Lucien foudroyé. « Je ne sais pas, » répondit le valet de pied en tâchant d'être à la fois bête et respectueux. Il n'y a rien de plus terrible que l'étiquette, pour ceux qui l'admettent comme la loi la plus formidable de la société. Lucien devina facilement le sens de cette scène atroce pour lui. Le duc et la duchesse ne voulaient pas le recevoir. Il sentit sa moelle épinière se gelant dans les anneaux de sa colonne vertébrale et une petite sueur froide lui mit quelques perles au front. Ce colloque avait lieu devant son valet de chambre à lui qui tenait la poignée de la portière et qui hésitait à la fermer. Lucien lui fit signe qu'il allait repartir. Mais, en remontant, il entendit le bruit que font des gens en descendant un escalier, et un domestique vint crier successivement « Les gens de Monsieur le duc de Chaulieu !»« Les gens de Madame la vicomtesse de Grandlieu !» Lucien ne dit qu'un mot à son domestique « Vite, aux Italiens !» Malgré sa prestesse, l'infortuné dandy ne put éviter le duc de Chaulieu et son fils, le duc de Rhétoré, avec lesquels il fut forcé d'échanger des saluts et qui ne lui dirent pas un mot. Une grande catastrophe à la cour, la chute d'un favori redoutable, est souvent consommée au seuil d'un cabinet par le mot d'un huissier à visage de plâtre. Comment faire savoir ce désastre à l'instant à mon conseiller? Se disait Lucien. Que se passe-t-il? Il se perdait en conjectures. Voici ce qui venait d'avoir lieu. Le matin même, à 11 heures, le duc de Grandlieu dit, en entrant dans le petit salon où l'on déjeunait en famille, à Clotilde après l'avoir embrassée, « Mon enfant, jusqu'à nouvel ordre, ne t'occupe plus du sire de Rubempré. » Puis il prit la duchesse par la main et l'emmena dans une embrasure de croisée où il lui dit quelques mots à voix basse qui firent changer de couleur la pauvre Clotilde. Car sa mère, qu'elle observait écoutant le duc, laissa paraître sur sa figure une vive surprise. « Jean, dit le duc à l'un des domestiques, tenez, portez ce petit mot à monsieur le duc de Chaulieu. Priez-le de vous donner réponse par oui ou non. Je l'invite à venir dîner avec nous aujourd'hui, dit-il à sa femme. Le déjeuner fut profondément triste. La duchesse parut pensive, le duc sembla fâché contre lui-même, et Clotilde eut beaucoup de peine à retenir ses larmes. « Mon enfant, votre père a raison, obéissez-lui, lui dit-elle d'une voix attendrie. Je ne puis vous dire comme lui, ne pensez pas à Lucien. Non, je comprends ta douleur, Clotilde baisa la main de sa mère. Mais je te dirai, mon ange, attends, sans faire une seule démarche. Souffre en silence, puisque tu l'aimes, et sois confiante en la sollicitude de tes parents. Les grandes dames, mon enfant, sont grandes parce qu'elles savent toujours faire leur devoir dans toutes les occasions et avec noblesse. « De quoi s'agit-il ? » demanda Clotilde, pâle comme un lys. « De choses trop graves pour qu'on puisse t'en parler, mon cœur, » répondit la duchesse. « Car si elles sont fausses, ta pensée en serait inutilement salie, et si elles sont vraies, tu dois les ignorer. » À 6 heures, le duc de Chaulieu vint trouver dans son cabinet le duc de Grandlieu, qui l'attendait. « Dis donc, Henri !» Ces deux ducs se tutoyaient et s'appelaient par leur prénom. C'est une de ces nuances inventées pour marquer les degrés de l'intimité, repousser les envahissements de la familiarité française et humilier les amours propres. Dis donc, Henri, je suis dans un embarras si grand que je ne peux prendre conseil que d'un vieil ami qui connaisse bien les affaires et tu en as la triture. Ma fille, Clotilde, aime, comme tu le sais, ce petit Rubempré qu'on m'a quasi contraint de lui mettre pour mari. J'ai toujours été contre ce mariage. Mais, enfin, Madame de Grandlieu n'a pas su se défendre de l'amour de Clotilde. Quand ce garçon a eu acheté sa terre, quand il l'a eu payée aux 3/4, il n'y a plus eu d'objection de ma part. Voici que j'ai reçu hier au soir une lettre anonyme. Tu sais le cas qu'on doit en faire. Où l'on m'affirme que la fortune de ce garçon provient d'une source impure et qu'il nous ment en nous disant que sa sœur lui donne les fonds nécessaires à ses acquisitions. On me somme, au nom du bonheur de ma fille et de la considération de notre famille, de prendre des renseignements en m'indiquant les moyens de m'éclairer. Tiens, lis d'abord. Je partage ton opinion sur les lettres anonymes, mon cher Ferdinand, dit le duc de Chaulieu, après avoir lu la lettre. Mais, tout en les méprisant, on doit s'en servir. Il en est de ces lettres absolument comme des espions. Ferme ta porte à ce garçon et voyons apprendre des renseignements. Eh bien, j'ai ton affaire. Tu as pour avoué Derville, un homme en qui nous avons toute confiance. Il a les secrets de bien des familles, il peut bien porter celui-là. C'est un homme probe, un homme de poids, un homme d'honneur. Il est fin, rusé, mais il n'a que la finesse des affaires. Tu ne dois l'employer que pour obtenir un témoignage auquel tu puisses avoir égard. Nous avons au ministère des Affaires étrangères, par la police du royaume, un homme unique pour découvrir les secrets d'État. Nous l'envoyons souvent en mission. Préviens Derville qu'il aura pour cette affaire un lieutenant. Notre espion est un monsieur qui se présentera décoré de la croix de la Légion d'honneur. Il aura l'air d'un diplomate. Ce drôle sera le chasseur et Derville assistera tout simplement à la chasse. Ton avoué te dira si la montagne accouche d'une souris ou si tu dois rompre avec ce petit Rubempré. En 8 jours, tu sauras à quoi t'en tenir. Le jeune homme n'est pas encore assez marquis pour se formaliser de ne pas me trouver chez moi pendant 8 jours, dit le duc de Grandlieu. Surtout si tu lui donnes ta fille, dit l'ancien ministre. Si la lettre anonyme a raison, qu'est-ce que ça te fait? Tu feras voyager Clotilde avec ma belle-fille, Madeleine, qui veut aller en Italie. Tu me tires de peine, dit le duc de Grandlieu. Je ne sais encore si je dois te remercier. Attendons l'événement. Ah, fit le duc de Grandlieu, quel est le nom de ce monsieur? Il faut l'annoncer à Derville. envoie-le-moi demain sur les 4 heures, j'aurai Derville. Je les mettrai tous deux en rapport. » Le nom vrai, dit l'ancien ministre, est, je crois, Corentin, un nom que tu ne dois pas avoir entendu. Mais ce monsieur viendra chez toi bardé de son nom ministériel. Il se fait appeler monsieur de Saint quelque chose. Ah, Saint-Yves, Saint-Valère, l'un ou l'autre. Tu peux te fier à lui. Louis XVIII s'y fiait entièrement. Après cette conférence, le majordome reçut l'ordre de fermer la porte à monsieur de Rubempré, ce qui venait d'être fait.